Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors, on l'a appris hier, le sénateur républicain de l'Ohio, Bernie Moreno, a déposé un projet de loi visant à interdire la double nationalité aux citoyens américains. C'est une crainte pour les citoyens israéliens et américains, mais c'est également une crainte pour toutes les personnes possédant la double nationalité aux États-Unis aujourd'hui.
Oui, je crois savoir qu'il y a entre 3 et 10% de citoyens américains qui ont la double nationalité. Si vous faites 3% sur 350 millions, ça fait déjà 10 millions. Si c'est 10%, ben ça fait 35 millions d'Américains qui auraient la double nationalité. Donc ça toucherait les citoyens américains bien au-delà des citoyens américano-israéliens ou israélo-américains, qui sont au nombre d'un demi-million, entre 200 et 600 000 personnes. Il y a également à peu près 200 000 citoyens israéliens qui vivent aux États-Unis, mais ceux-là n'ont pas la double nationalité. Donc oui, effectivement, ça les affecterait, mais bien au-delà, comme je le répète, bien au-delà des citoyens israélo-américains, qui sont, je répète, 200 à 600 000 par rapport à une dizaine de millions à minima, ou 35 millions au maximum.
Aux États-Unis, enfin, lui déclare qu'être citoyen américain, c'est un honneur et un privilège qui ne se partage pas. N'est-ce pas une vision un peu rétrograde des choses ?
Rétrograde, je ne sais pas. C'est une vision absolutiste, en tout cas. On ne peut avoir de fidélité qu'à l'égard d'un seul pays, d'une seule nation, d'un seul projet collectif. Je peux entendre ça, surtout dans le sillage de ce qui traverse un courant des républicains, puisque le sénateur de l'Ohio est républicain, Bernie Moreno. Il a immigré aux États-Unis, je pense, quand il était encore jeune homme.
18 ans.
À 18 ans. Et pour lui, effectivement, arriver aux États-Unis, recevoir la nationalité américaine, c'est un aboutissement. Et il voudrait que tous ceux qui ont connu le même parcours n'aient de fidélité qu'à l'égard des États-Unis. Bien, ce n'est pas trahir les États-Unis que de partager son passeport américain avec un autre passeport. On peut être fidèle au pays d'accueil, comme les États-Unis, par exemple, et rester fidèle au pays d'origine. Ça va un peu à l'encontre de l'idée générale que l'on se fait aujourd'hui, mais ça rentre dans le cadre de ce courant qu'il y a parmi les républicains où on ne peut être fidèle qu'à une seule nation, qu'à un seul pays, qu'à une seule constitution, les États-Unis.
Selon certains chiffres, il y aurait en 2025 4000 immigrants, donc 4000 personnes qui ont fait leur alia des États-Unis jusqu'en Israël. Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre d'acte, cela pourrait augmenter le nombre de juifs ou de personnes ayant la double nationalité qui se rendraient en Israël ?
Alors, bon, c'est une proposition de loi.
Bien sûr.
Elle est très très loin d'aboutir et je suis absolument convaincu qu'elle n'aboutira pas et que les choses resteront en l'état. Je vous le disais, ça touche un trop grand nombre de personnes pour que cela ait une chance seulement d'aboutir. Ça n'est pas ça qui pousserait les Israélo-Américains ou les citoyens israéliens qui vivent aux États-Unis ou plus largement les Américains de confession juive de partir. Ce qui les inciterait à partir, c'est l'antisémitisme et c'est le manque de résolution, le manque de volonté et de constance dans le combat contre l'antisémitisme, particulièrement ces dernières années aux États-Unis. C'est ça qui les conduira peut-être à envisager un départ pour Israël. Et même peut-être, s'ils ne quittent pas tout de suite les États-Unis, d'envisager un achat immobilier en Israël pour avoir un point de chute au cas où. C'est surtout cela, conjugué aussi avec une baisse du prix de l'immobilier en Israël, la concordance de ces deux phénomènes pourrait inciter un plus grand nombre d'Américains juifs à envisager eh bien, une alia en Israël. Vous savez, l'alia, ça devrait, au mieux, se penser comme l'aboutissement d'un projet individuel, d'une adhésion à un projet collectif qui ne peut s'organiser ou se matérialiser qu'en Israël. Mais il y a aussi une forme d'alia, pas négligeable non plus, qui est la résultante d'un un inconfort de plus en plus important qui parcourt toutes les communautés juives dans le monde. Et les États-Unis, en particulier ces dernières années, n'échappent pas à cette inquiétude générale qui traverse les communautés juives.
Et on imagine que l'État hébreu accueille ces personnes à bras ouverts, car ce sont des cerveaux, ce sont de la matière économique qui arrive en Israël.
Bien sûr, pour le sionisme, c'est ça, c'est ramener tous les juifs du monde à la maison. C'est d'essayer de les convaincre par tous les moyens qu'en réalité, Israël est leur chez-soi. C'est là qu'ils accompliront à la fois leur trajectoire individuelle et leur destin collectif. Ça doit se passer en Israël. C'est en tout cas ça la signification du sionisme. Bon, les chiffres que vous évoquez sont relativement bas, hein. 3000, 4000.
Oui, c'est 3000 à 3200 en 2023-2024 et 4000 en 2025.
C'est encore relativement bas par rapport à cette vague d'antisémitisme. Je pense avoir lu en 2024 qu'il y a eu plus de 9000 actes ou propos antisémites aux États-Unis. C'est encore relativement bas. Ça veut dire qu'il y a un début de prise de conscience dans la société, dans les communautés juives des États-Unis, que ce qui était considéré comme un lieu absolument sûr, comme un lieu où la sécurité ne pouvait pas être contestée, eh bien cette certitude, elle est de plus en plus interrogée, elle est de plus en plus questionnée. Et Israël est une réponse.
Une augmentation des actes antisémites qu'on a évidemment constaté également en Europe. Est-ce que c'est plus facile d'être sioniste aux États-Unis qu'en Europe ?
Alors, jusqu'il y a peu, c'était plus facile d'être sioniste aux États-Unis que de l'être en Europe. Mais le climat s'est profondément détérioré aux États-Unis également. Et on le voit avec un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, qui s'allie avec une forme très, très radicale d'islamisme. Mais il y a également un antisémitisme qui est désormais décomplexé à la droite du paysage politique américain. Et ces deux extrêmes se rejoignent dans une haine qui est commune et dans une dénonciation qui est commune, c'est la dénonciation du juif comme responsable de tous les malheurs du monde. Donc effectivement, de plus en plus, il y a une européanisation des mœurs américaines. Concernant le regard que l'on porte sur les juifs. Avant, vous savez, pour les citoyens européens de confession juive qui pensaient à quitter l'inconfort dans lequel ils se trouvent en Europe du fait de l'antisémitisme, il y avait toujours l'option Israël, Amérique, Australie, Canada. Alors, vous examinez chacun de ces pays, l'Australie depuis quelques années, depuis que le pays est dirigé par Albanese et par le Parti travailliste. Vous regardez le Canada depuis que c'est avec Trudeau et avec Carney. Vous regardez les États-Unis après Barack Obama pendant deux mandats et puis et Joe Biden. Eh bien, l'antisémitisme est de plus en plus débridé, normalisé, et très singulièrement depuis le 7 octobre 2023, où la parole antisémite a été totalement normalisée, banalisée dans le discours public.
Mmh. Ouais. Et vous parliez de l'Australie, un chiffre rassurant, entre guillemets, fait état d'une diminution d'environ 20% des actes antisémites. Mais,
on vient de très haut. Hein.
Oui, on vient de très haut parce que les actes antisémites sont encore supérieurs à ceux avant le 7 octobre. Zach Franco, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka, analyste politique, et on vous retrouve tous les lundis à 17h dans l'émission Cherchez l'erreur.
Au revoir.